بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، nous continuons ce que nous avons entamé hier, à savoir la lecture et la tentative de traduction du livre Manhaj Salikin du noble cheikh عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. Et avant d'entamer le livre de la purification, on revient brièvement sur un point abordé hier quand on a parlé de ce qu'on appelle al-ahkam al-khamsa, les différents statuts religieux relatifs aux actes, et qu'on a parlé donc de al-wajib, ce qui est obligatoire, al-haram, ce qui est interdit, al-makruh, ce qui est réprouvé, al-masnoun, ce qui est recommandé, et al-mubah, ce qui est permis. Na'am. On avait abordé donc la traduction des définitions de ces différents termes présentés par l'auteur, et on avait apporté quelques précisions. On avait apporté deux précisions, notamment le fait de dire que al-wajib, ce qui est obligatoire, c'est ce dont celui qui l'accomplit en cherchant à se conformer à l'ordre d'Allah est récompensé. Donc, il est important de rajouter cette précision-là, en cherchant à se conformer. Et on avait également dit que lorsque l'auteur a dit « wa'uqiba tarikuhu » et celui qui le délaisse est châtié, il est important de préciser, et celui qui le délaisse mérite le châtiment, étant donné qu'il est possible qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde son pardon et ne le châtie pas. Donc mériter le châtiment, encourir le châtiment. La précision qui restait à dire, c'est que ces deux précisions-là, elles sont valables également pour le reste des statuts religieux relatifs aux actes qui sont mentionnés. Donc ce qu'on a dit concernant ce qui est obligatoire, c'est valable pour le reste des statuts religieux relatifs aux actes. Nous en arrivons donc maintenant au livre de la purification, Kitab al-Tahara. Donc l'auteur, rahimahullah ta'ala, a dit Kitab al-Tahara, le livre de la purification. Puis il a dit, rahimahullah, قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان متفق عليه. فشهادة أن لا إله إلا الله علم العبد واعتقاده والتزامه أنه لا يستحق الألوهية والعبودية إلا الله وحده لا شريك له، فيوجب ذلك على العبد إخلاص جميع الدين لله تعالى، وأن تكون عباداته الظاهرة والباطنة كلها لله وحده، وأن لا يشرك به شيئا في جميع أمور الدين، وهذا أصل الدين جميع المرسلين وأتباعهم، كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وشهادة أن محمد رسول الله، أي يعتقد العبد أن الله أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم إلى جميع الثقلين الإنس والجن بشيرا ونذيرا يدعوهم إلى توحيد الله وطاعته بتصديق خبره وامتثال أمره واجتناب نهيه، وأنه لا سعادة ولا صلاح في الدنيا والآخرة إلا بالإيمان به وطاعته، وأنه يجب تقديم محبته على محبة النفس والولد والناس أجمعين، وأن الله أيده بالمعجزات الدالة على رسالته وبما جبله الله عليه من العلوم الكاملة والأخلاق العالية وبما اشتمل عليه دينه من الهدى والرحمة والحق والمصالح الدينية والدنيوية وآياته الكبرى هذا القرآن العظيم بما فيه من الحق في الأخبار والأمر والنهي والله أعلم. Donc l'auteur de dire, Allah lui fasse miséricorde, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'islam est bâti sur 5. L'attestation que nulle divinité ne mérite d'être adorée si ce n'est Allah. Et que Mohammed est le messager d'Allah. Ainsi que l'accomplissement de la prière. L'acquittement de l'aumône obligatoire. Le pèlerinage auprès de la maison sacrée, sacrée entre crochets, et le jeûne de Ramadan. Et c'est un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, dans le sens où il est muttafaqun alay. Quand vous lisez muttafaqun alay, c'est qu'il est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, de manière générale. Après, il peut y avoir des terminologies particulières utilisées par certains ulama. Le shir de continue en disant quant à l'attestation que nulle divinité ne mérite d'être adorée si ce n'est Allah, ça correspond au savoir et à la conviction qu'a le serviteur du fait que nul ne mérite d'être divinisé et adoré si ce n'est Allah, seul et sans associé. Et que le serviteur se considère redevable de ce qu'implique cette attestation. Et c'est là le sens de al-imtizam. L'auteur, il a dit wal-tizamuhu. Et dans le sens où le serviteur se considère redevable de ce qu'implique cette attestation. Il ne se contente pas de savoir et d'avoir la conviction, mais également il se sent concerné et redevable de ce qu'implique cela. Et c'est là donc le sens ici de al-imtizam. Et ce n'est pas le simple fait d'admettre, comme on peut le trouver dans certaines traductions, mais c'est plus fort que cela. Wallahu a'lam. Le shir de continue en disant, ceci rend obligatoire au serviteur de vouer sincèrement l'ensemble du culte à Allah l'exalté. Et que ces adorations, que l'ensemble de ces adorations, aussi bien apparentes qu'intérieures, soient vouées exclusivement à Allah, seul. Et qu'il ne lui associe dans cela rien ni personne. Et c'est là le fondement de la religion de l'ensemble des envoyés et de leurs suiveurs. Comme l'a dit l'exalté, et nous n'avons envoyé avant toi aucun messager sans lui avoir révélé que nulle divinité ne mérite d'être adorée. Si ce n'est moi, adorez-moi donc. Quant à l'attestation que Mohammed est le messager d'Allah, elle consiste à ce que le serviteur et la ferme conviction qu'Allah a envoyé Muhammad à l'ensemble des hommes et des djinns. En tant qu'annonciateur et avertisseur, afin de les appeler à l'affirmation de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala et à son obéissance. Et au fait de reconnaître la véracité des informations qu'il nous a apporté. Et afin de se conformer à ses ordres. Et à s'écarter de ce qu'il a réprouvé. Ça consiste également à avoir la conviction qu'il ne peut y avoir de félicité et que les choses ne peuvent bien se dérouler dans ce bas monde et dans l'au-delà que par le fait de croire fermement en lui et de lui obéir. Et qu'il est obligatoire de faire prévaloir son amour sur l'amour de nos propres personnes, de nos enfants et de l'ensemble de l'humanité. Cela consiste également à avoir la conviction qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a appuyé et soutenu par des miracles qui prouvent la véracité de son message. Et qu'il l'a également soutenu par ce sur quoi il l'a prédisposé en termes de connaissances approfondies et de caractère éminent. Et qu'il l'a également appuyé et soutenu par ce que contient sa religion comme guidée, miséricorde et vérité, et comme intérêt terrestre, aussi bien terrestre que religieux. Et comme intérêt aussi bien terrestre que religieux. Et le plus grand de ces signes, c'est ce Coran glorieux, et ce qu'il contient comme vérité, dans les informations, les ordres et les interdits. Et Allah est plus savant. On retient de ce passage des propos de l'auteur, rahimahullah ta'ala, plusieurs points. Le premier, c'est la mention des cinq piliers de l'islam dans le hadith d'Ibn Omar, radiyallahu anhuma. Le deuxième point, c'est le sens du terme attestation. Qui réunit le savoir et la conviction du serviteur, ainsi que le fait qu'il se considère redevable de l'objet de cette attestation et de ce qu'elle implique. Comme nous l'avons vu précédemment. Et il faut savoir également qu'une attestation doit nécessairement contenir la prononciation avec la langue de ce de quoi tu attestes. Pour celui, bien sûr, qui en a la possibilité, la capacité. Toujours dans ce second point, il est important d'insister sur le sens de la ilaha illallah, qui signifie, comme nous l'avons vu à plusieurs reprises, nulle divinité ne mérite d'être adorée si ce n'est Allah. La ilaha illallah. Le la que vous retrouvez au début de cette noble parole a pour fonction de nier. Ilaha, c'est un nom qui signifie divinité. Divinité dans le sens de ce qui est adoré. Il faut savoir qu'en langue arabe, le terme « la », qui signifie donc la négation, il appelle forcément ce qu'on appelle un « khabar », un énonciatif. Un énonciatif, c'est quoi ? Un énonciatif, c'est un terme qui va venir informer, apporter une information à propos du nom qui le précède. En l'occurrence, ici, « ilaha ». Et cet énonciatif-là, ce khabar, il n'a pas été cité ici, car il est sous-entendu. Les grammairiens arabes, ils sont en divergence concernant la suppression de l'énonciatif lorsque le terme « là » est présent. « Là » donc, de négation. Ils ont divergé donc quant à la suppression de l'énonciatif de la lorsqu'il est connu. C'est-à-dire lorsque cet énonciatif, ce khabar est connu, ils ont divergé. Est-ce qu'il est obligatoire de le supprimer ou est-ce que ça reste quelque chose qui est linguistiquement permis? Mais donc on retient que c'est un procédé connu, que tu considères qu'il est permis ou qu'il est obligatoire. Na'am. Au final, ça reste quelque chose qui est connu dans la langue arabe. Donc la question qui reste à poser, c'est quel est donc cet énonciatif ? Cet énonciatif, comme on l'a dit précédemment, c'est « bihaq ». C'est pour ça que tu dis, dans l'explication de « la ilaha illallah »,« la ma'bouda bihaqin illallah ». Nulle divinité ne mérite d'être adorée. Donc, cette notion de mérite, il est impératif de la faire ressortir, étant donné quelle est la traduction de cet énonciatif qui est sous-entendu, à savoir « bihaq ». Une autre question peut se poser, à savoir, et pourquoi cet énonciatif qui est sous-entendu ne serait pas un énonciatif qui ferait référence à l'existence, dans le sens où on dirait « La ilaha mawjoud illallah », ce qui signifierait « Nulle divinité n'existe si ce n'est Allah ». Ou, comme certains le disent, plus communément, comme c'est répandu en français, « Il n'y a de Dieu que Dieu ». La réponse à cette question, c'est que premièrement, le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il a affirmé l'existence de nombreuses autres divinités qui, même si elles sont adorées de manière vaine, existent. C'est-à-dire ces divinités, donc, en dehors d'Allah, elles existent. Allah subhanahu wa ta'ala a affirmé leur existence dans le Coran. Donc à partir de ce moment-là, il n'est pas correct de dire « Nulle divinité n'existe si ce n'est Allah » car c'est en opposition avec les enseignements coraniques. Également, on peut rajouter en réponse à cette question-là qu'une fois qu'il est établi qu'Allah subhanahu wa ta'ala a affirmé la présence de nombreuses autres divinités, eh bien le fait de considérer qu'il n'y a pas de divinité sauf Allah rejoindrait la doctrine de l'unité de l'existence, Wahdat al-Wujud. Cette doctrine-là, qui est une doctrine mécréante, consiste à croire que tout ce qui est Allah. Que tout ce qui est Allah. Et qu'au final, donc, tout ce que l'on voit, c'est Allah. Créatures, ce sont Allah selon eux. Et ça, bien sûr, c'est une doctrine étrangère à l'islam. Si une personne elle a la conviction qu'il y a d'autres divinités qui existent et qu'elles sont nombreuses et qui sont adorées en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala et que cette personne-là, elle dit nulle divinité n'existe si ce n'est Allah, qu'est-ce qu'on comprend ? Yarhamouk Allah. On comprend de cela au final, eh bien, que toutes ces divinités-là serait Allah, que l'on nous préserve d'avoir une telle croyance. Ce qui reviendrait donc à avoir la conviction à la doctrine de Wahdat al-Wujud, l'unité de l'existence. Cependant, il y a une règle importante à mentionner, qui est établie chez les adeptes de la Sunna. Cette règle-là, c'est « Lazimul qawl laysa bi qawl illa idha altazamahu sahibuhu ». Ce qu'implique une parole n'est pas attribué à celui qui la prononce, sauf si ce dernier l'adopte. Ce qu'implique une parole n'est pas attribué à celui qui la prononce, sauf si ce dernier l'adopte. Dans le sens où, ici par exemple, le fait de dire « Nulle divinité n'existe si ce n'est Allah » implique la doctrine de l'unité de l'existence. Si une personne maintenant, elle vient et elle te dit « La ilaha illallah », ça veut dire « Nulle divinité n'existe si ce n'est Allah », ne va pas lui attribuer directement que cette personne-là défend la doctrine de l'unité de l'existence. Non. Car ça, c'est une implication de sa parole et de son erreur. Et tu ne pourras lui attribuer que s'il l'adopte réellement. Une fois que tu lui auras dit, regarde ce qu'implique ta parole, regarde ce qu'implique l'explication que tu proposes de la ilaha illallah, à partir du moment où cette personne-là adopte cette parole-là, alors à ce moment-là, on l'attribuera. Mais on se garde de le faire dans un premier temps. Donc cette règle est très importante, afin de ne pas attribuer aux gens ce qu'ils n'ont pas dit. Car si la personne, il est possible, il est probable, il est envisageable, qu'une personne, si jamais elle savait ce qu'implique certains des propos qu'elle tient, eh bien elle se désavouerait de cette chose-là. Et que peut-être elle ne s'est pas rendue compte de ce qu'implique la parole qu'elle a tenue. Donc la règle, c'est ce qu'implique une parole n'est pas attribué à celui qui la prononce, sauf si ce dernier l'adopte. Il y a un autre point important, et on s'arrête quelque peu sur ça, concernant donc « La ilaha illallah » et concernant donc sa traduction. Il y a certaines personnes qui traduisent « La ilaha illallah » en disant, par exemple, « Nulle divinité n'existe » si ce n'est Allah, na'am, ou en disant, à titre d'exemple, ce genre donc de « nul ne mérite », ou plutôt « point d'autre Dieu en dehors d'Allah », ou ce genre donc de traductions qui au final reviennent toutes à celles que nous avons mentionnées, à savoir «
nulle divinité n'existe si ce n'est Allah. Donc parfois les manières de présenter les traductions changent, mais ça renvoie au final à cette traduction de base. Certaines personnes proposent cette traduction-là en pensant par là traduire de manière littérale « La ilaha illallah ». Et ensuite, ils viennent expliquer « La ilaha illallah » de manière correcte. En disant « La ilaha illallah », ça signifie « Nulle divinité ne mérite d'être adorée si ce n'est Allah ». Cependant, cette manière d'agir n'est pas correcte. Pourquoi ? Car premièrement, la traduction littérale d'une parole implique de prendre en compte les spécificités de chaque langue. Or, la suppression de l'énonciatif al-khabar, comme on l'a mentionné précédemment, est de vigueur en langue arabe, mais pas forcément en français. Donc, si tu veux traduire « La ilaha illallah », il faut que tu prennes en compte cette spécificité de la langue arabe, à savoir qu'ici, l'énonciatif, il n'est pas mentionné, mais il est sous-entendu. Alors qu'en français, si tu dis « Nulle divinité n'existe si ce n'est Allah », alors à ce moment-là, tu n'as pas laissé la possibilité au lecteur de comprendre réellement ce que signifie « La ilaha illallah », étant donné que tu lui as directement traduit et que tu lui as mal traduit. La traduction littérale consiste donc à prendre en compte cette particularité-là de la langue arabe et d'agir par la suite en conséquence, en faisant ressortir ce sens qui est sous-entendu et que tu ne pourras pas sous-entendre en français. Si tu veux exprimer ce sens-là, tu es obligé de le mentionner de manière claire. Deuxièmement, si tu en viens à dire que la ilaha illallah, ou à traduire la ilaha illallah par nulle divinité n'existe si ce n'est Allah, ou il n'y a pas de Dieu si ce n'est Allah, et ainsi de suite parmi les traductions qui sont proposées, et qu'ensuite, lorsque tu en arrives à la traduction, tu dis, ça veut dire nulle divinité ne mérite d'être adorée si ce n'est Allah, eh bien en vérité tu es tombé dans la contradiction en langue française. Tu es tombé dans la contradiction, car une fois tu es en train de dire nulle divinité n'existe si ce n'est Allah, et l'autre fois tu dis nulle divinité ne mérite l'adoration si ce n'est Allah. Donc au final tu tombes dans la contradiction. C'est pour cela que la solution, Wallahu A'lam, serait de traduire directement le sens authentique de la ilaha illallah. Et que lorsque on se trouve dans un contexte où la ilaha illallah est expliqué et que l'on veut traduire cela, alors ce serait de laisser la ilaha illallah soit en arabe, soit en phonétique, et ensuite de dire ça signifie cela. Lorsque par exemple tu arrives et que tu traduis les paroles d'un savant qui te dit « La ilaha illallah » ça signifie « La ma'bouda bihaqin illallah » Naam. Et toi tu ne veux pas, en français tu vas être face à un problème. Si tu traduis donc le sens directement, quand tu en arrives à « La ilaha illallah » et que tu dis donc « Nulle divinité ne mérite l'adoration si ce n'est Allah » et qu'ensuite tu dis ça signifie nulle divinité ne mérite l'adoration si ce n'est Allah, c'est clair que tu vas tomber dans un problème. Donc la solution à ce moment-là, ça serait de laisser la ilaha illallah en arabe ou en phonétique, et ensuite de l'expliquer conformément à l'explication du shir en question. Un autre point concernant l'attestation, c'est donc un troisième point contenu dans ce second. C'est lorsque l'auteur, rahimahullahu ta'ala, a dit « Ceci rend obligatoire au serviteur. » Comme vous l'avez noté. Cela correspond à la condition de la servinité, al-inqiyad, que l'on mentionne lorsque l'on mentionne les conditions de la ilaha illallah. Qui sont au nombre de 7. On mentionne parmi ces conditions-là, al-inqiyad, la servinité, à ce qu'implique l'attestation que nulle divinité ne mérite d'être adorée si ce n'est Allah. Donc il faut savoir, en résumé, que l'attestation en elle-même, elle comprend le savoir et la conviction du serviteur, ainsi que le fait qu'il se sente lui-même et qu'il se considère redevable de ce qu'implique cette attestation-là. On avait dit également que cela comprend la prononciation avec la bouche, avec la langue, pour celui qui en a la capacité. Na'am. Et cela donc va rendre obligatoire au serviteur certaines choses qui découlent de la ilaha illallah. Cette parole énorme à laquelle le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a appelé. Troisième point concernant ce passage-là, c'est ce que l'auteur a cité concernant l'attestation que Muhammad est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et il a cité donc un bon nombre de points que l'on peut résumer dans 4 points que vous connaissez, hafidhakumullah, à savoir lui obéir dans ce qu'il a ordonné, s'écarter de ce qu'il a réprouvé, reconnaître la véracité de ce à propos de quoi il a informé, et n'adorer Allah que parce qu'il a légiféré. Et l'auteur, rahimahullah ta'ala, de terminer ce passage en faisant mention du Coran glorieux, qui est le plus grand des signes attribués par Allah subhanahu wa ta'ala à son messager et serviteur Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam. Et on va s'en tenir à ça pour aujourd'hui et on continuera demain bi'idhnillah avec le chapitre relatif au type d'eau et on rentrera donc dans une deuxième sorte, un deuxième type de purification. Wallahu a'lam, sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Il faut appuyer où ici, hein?